Je me lève le matin, je scroll. Je scroll chaque fois que j'ai du temps libre, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de temps libre. Et je scroll le soir, je scroll tout le temps.
Le coût des smartphones. Une émission critique du numérique.
Complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction.
Le coût des smartphones.
Si vous commencez à utiliser un smartphone, vous allez en avoir de plus en plus besoin. C'est pour ça que la meilleure manière de ne pas en avoir, c'est de ne pas commencer.
Une émission critique du numérique.
Dans 50 mètres, prenez la deuxième à droite. Prenez la deuxième à droite. Non. Stop. T'es con ou quoi? J'ai dit la deuxième. Bon. Calcul en cours.
Si l'on fait sur Internet une recherche d'images en rapport avec l'intelligence artificielle, on obtient des dizaines de photos de cerveaux lumineux et de codes binaires flottants en chiffres bleus dans l'espace. De même, l'opinion collective répugne à affronter la matérialité de ces technologies.
Bonjour.
Bonjour.
Alors bienvenue dans ce nouveau volet du coût des smartphones. On vient d'entendre un extrait du contre-atlas de l'intelligence artificielle et on va entendre d'autres extraits de ce même livre. Alors aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle fascine, elle intrigue ou inquiète et pourtant elle est partout. Elle désigne un peu n'importe quoi. Et en même temps, son développement a des conséquences bien réelles sur la vie de millions de personnes. Alors, on a déjà abordé la matérialité du numérique dans notre dernière émission, si jamais vous aviez raté cet épisode.
Et aujourd'hui, dans cet épisode consacré à l'intelligence artificielle, on va commencer par expliquer ce que c'est une intelligence artificielle et surtout en quoi elle n'est ni intelligente ni artificielle. Et on verra aussi comment la fascination qu'on porte à ces programmes informatiques conduit souvent à une absence de critique de leur existence ou de leur utilisation. Ensuite, on parlera de la notion très réductrice de la notion d'intelligence qui est utilisée dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et puis, on vous racontera l'exploitation des travailleurs et travailleuses qui sont bien cachés dans cette histoire d'intelligence artificielle. Mais sans elle, il n'y aurait pas d'IA.
Alors pour commencer, on va écouter un extrait de la conférence de Lunar qui s'appelle « Informatique ou liberté » où il nous explique ce qu'est qu'un programme.
L'ordinateur, c'est une machine, quoi. Ça fait que ce qu'on lui dit en fait. C'est une machine qui fait des calculs en utilisant pour ça de l'électricité. Et voilà, et fondamentalement, ça fait des calculs que ça fait, le genre de comment ça résout des problèmes. Les trois opérations, ça fait de l'arithmétique. Addition, soustraction, etc., etc. Ça fait des copies de nombres comme ça à plusieurs endroits et ça fait des comparaisons entre deux résultats de calcul. Voilà, c'est ces suites de calculs qui peuvent devenir très longues et très complexes. On appelle ça des programmes. Et donc l'activité de expliquer à un ordinateur qu'est-ce qu'il doit faire, c'est programmer ou on dit des fois aussi coder. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que comme un ordinateur, c'est une machine qui utilise de l'électricité pour faire des calculs. Quand on fait des calculs avec un ordinateur, on manipule de l'électricité. Donc quand on programme un ordinateur, on décide comment il va manipuler l'électricité. Et ce qui est intéressant quand on manipule l'électricité, c'est qu'on peut allumer une lampe, faire tourner un moteur. Un ordinateur, ça fait précisément ce qu'on lui dit. Pas autre chose, quoi.
Les programmes sont constitués d'algorithmes. Alors c'est un mot qu'on entend partout et on a l'impression que c'est un truc, mais alors super compliqué. Alors en fait, on appelle algorithme une suite d'instructions qui nous donne un résultat attendu. Ça fait un peu obscur comme ça, mais l'exemple qu'on prend souvent, c'est celle de la recette de cuisine. Un gâteau, par exemple. On va suivre des instructions les unes après les autres pour aboutir au gâteau, qui est le résultat qu'on attendait. Et bien, c'est ça un algorithme. Alors bien sûr, au niveau informatique, ça sera des suites d'instructions plus longues, plus de calculs, et tout ceci dans un langage compréhensible de l'ordinateur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'algorithme, il est fabriqué pour un résultat déterminé. Les algorithmes, ils se trouvent partout. Par exemple, quand on clique sur un programme qu'on veut ouvrir, c'est un algorithme qui a été fabriqué pour dire que quand le curseur de la souris, ou alors quand notre doigt, clique sur le programme, ça ouvre la fenêtre du programme. On a aussi des algorithmes comme celui de YouTube qu'on appelle des agents de recommandation. Alors, on regarde une vidéo et l'algorithme va nous proposer une liste d'autres vidéos à regarder. Ces autres vidéos sont sélectionnées parce qu'elles ont un bon nombre de visionnages et parce qu'elles ont été aussi regardées par des personnes qui ont vu plusieurs des vidéos qu'on vient de voir. Et pourquoi cet algorithme ? Eh bien, c'est pour qu'on reste un maximum de temps sur la plateforme à regarder les vidéos et à enrichir les actionnaires de Google, propriétaires de YouTube.
Et c'est ce même genre d'algorithme qu'on va retrouver dans les publicités ciblées de Google. À partir de l'analyse de notre navigation sur Internet, le moteur de recherche va nous proposer des publicités qui vont correspondre à des recherches qu'on a effectuées.
Alors ces algorithmes, ils sont à la base de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors on voit bien que c'est très vague finalement ce mot. L'intelligence artificielle, c'est par exemple les moteurs de recherche, les algorithmes de recommandation, on a vu celui de YouTube. C'est aussi les systèmes de navigation GPS, les accueils téléphoniques, les chatbots des services clients, les voitures autonomes, entre guillemets, etc.
Alors l'intelligence artificielle, c'est un peu le futur qui s'invite au présent. Jusque-là, on imaginait des choses, on regardait des films ou on lisait des romans avec des inventions et des technologies incroyables. Et puis, c'est devenu réalité. Est-ce qu'on se serait dit il y a 30 ans que des voitures rouleraient sans chauffeur ? On était dans le cinquième élément avec des voitures volantes et paf, 30 ans plus tard, les voitures roulent sans chauffeur et on a failli voir des taxis volants au JO de Paris. Alors la fascination pour les technologies, et en particulier pour les intelligences artificielles, est en partie renforcée par des récits de science-fiction, les livres, le cinéma, les séries. Et ces histoires peuvent nous faire rêver, mais elles font souvent cauchemarder, elles portent des critiques sociales. Mais cependant, comme l'explique Isabella Herman dans son ouvrage, qui n'est pas traduit en français, Artificial Intelligence in Fiction... Ok, je reprends avec une tentative d'accent anglais. Artificial Intelligence in Fiction, Between Narrative and Metaphors. Les critiques, selon elle, ne sont pas toujours bien placées et peuvent permettre de détourner l'attention des conséquences réelles et des technologies et des IA.
Cependant, l'ASF n'est pas une vision prévisionnelle ou une évaluation de la technologie, mais elle raconte des histoires pour un public humain. Pour que l'intrigue fonctionne, l'IA est souvent présentée comme semblable à des humains ou autonomes, sans tenir compte des limites technologiques réelles. Prendre l'IA de science-fiction trop littéralement, et même utiliser cela dans la communication scientifique, déforme l'image du potentiel actuel de la technologie et détourne l'attention des implications et des risques de l'IA dans le monde réel. Ces risques ne concernent pas les robots humanoïdes ou les machines conscientes, mais le repérage, la discrimination, l'exploitation et la surveillance des êtres humains par les technologies de l'IA, par l'intermédiaire des gouvernements et des entreprises.
Alors on remercie Zacha pour la traduction des extraits et ce petit bout de texte qui résume un extrait du bouquin de Isabella Herman. Alors à chaque fois qu'un film ou un livre fait flipper autour, par exemple, d'une prise de pouvoir par des robots ou des intelligences artificielles, en fait, il nous détourne des prises de pouvoir réelles des entreprises capitalistes. Et quand un ouvrage décrit des discriminations vécues par une intelligence artificielle, on doit le prendre comme une métaphore des discriminations et des violences réellement vécues dans notre société actuellement, et pas comme d'hypothétiques possibles futures. Alors, malgré tout l'amour que je porte au genre de la science-fiction, il est nécessaire de se questionner sur la manière dont il peut renforcer une fascination pour les technologies et en particulier pour l'intelligence artificielle. Et en même temps, dire science-fiction ne signifie pas grand-chose, parce que le genre, il est traversé par des courants politiques très divers, allant de la propagande d'État à la critique sociale radicale. Et par exemple, la science-fiction, elle peut être utilisée à des fins de propagande étatique, et c'est le cas de la Red Team Defense, qui est un programme qui a été créé en 2019 par le ministère des Armées en France. Et c'est un programme qui fait travailler ensemble des auteuristes et des dessinateuristes de science-fiction avec des experts scientifiques et des experts militaires. Et le but est d'imaginer l'armée du futur ou les menaces futures visant la France ou ses intérêts, comme c'est assumé dans le teaser officiel.
Red Team. Quel futur ? Quel futur ? Face à un avenir de plus en plus complexe et incertain. Une initiative du ministère des Armées, le projet Red Team. Faire appel à la science. Faire appel à la science-fiction. Avec pour mission d'imaginer le futur à l'horizon 2023, à l'horizon 2060. Ses menaces, ses défis, ses mutations. Déconstruire les idées reçues. Identifier les signaux faibles. Raconter l'histoire d'un monde qui change. Voir autrement. Se tenir prêt et anticiper pour défendre les intérêts, l'intégrité, la souveraineté de la France. Red Team à l'initiative du ministère des Armées.
Alors voilà, c'était le teaser officiel pour la Red Team sur lequel on a ajouté des voix parce qu'en fait le texte il est juste écrit derrière la musique. Alors, la Red Team, elle a déjà publié deux recueils de nouvelles de science-fiction. Et dans un des scénarios autour de la thématique pirate, la menace, c'est celle de groupes de migrants climatiques qui se constituent en pirates et qui s'attaquent au système d'extraction minière de la France. Du coup, on voit que c'est un scénario qui s'appuie directement sur des imaginaires racistes et capitalistes avec la stigmatisation des migrants et la défense des intérêts économiques de la France.
Ouais, super. Très inspirant. Alors, la fascination pour les inventions technoscientifiques comme la voiture autonome ou l'intelligence artificielle, elle est renforcée en fait par le fait qu'on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Ça nous dépasse parce que ça nous paraît toujours un peu surréaliste tout ça. Et cette fascination, bien exploitée bien sûr par les entreprises et les médias, elle rend la course aux technologies positives et nécessaires. L'IA, c'est aussi le mythe du dépassement humain, de la maîtrise totale de la science, le mythe du progrès technologique. Ce sont tous ces imaginaires qui sont entassés derrière l'intelligence artificielle et qui la rendent fascinante. La capacité de reproduire le cerveau humain, de téléverser notre mémoire dans un ordinateur, de devenir immortel, de devenir créateur ou créatrice d'individus conscients, de maîtriser et comprendre le cerveau, la vie, l'intelligence, d'accéder à la vérité scientifique. Alors cette fascination, elle va aussi créer une diminution de la distance critique parce que c'est vachement dur de critiquer ce qui nous fascine, ça diminue considérablement notre capacité à prendre du recul. Et c'est donc cette fascination technologique qui facilite une acceptation, qui donne envie d'essayer, puis de réessayer, puis d'utiliser, puis de pratiquer, et puis en fait de défendre.
Parce que quand même, c'est vachement pratique.
Bah, on pourrait se demander, mais à quoi ça sert tout ça ? Mais en fait, là, bon, on passerait pour une sale rabat-joie, alors que c'est trop dément d'aller voyager dans l'espace. Il semble que, en fait, de la science-fiction, on a bien mis de côté les Big Brother ou autres narrations critiques de la course au progrès et aux technologies pour ne garder, en fait, qu'un enthousiasme naïf face à toutes ces inventions. On met de côté le fait que des milliers de données sont stockées pour analyser nos goûts et nos comportements et pour pouvoir les influencer à minima, à des fins commerciales et sinon plus.
Comme on l'a vu avec le Brexit ou avec diverses élections. Alors, on se réjouit des nouvelles offres que cela nous propose, même si on n'en avait pas besoin jusque-là. Et génial, on a un ordinateur qui tient dans la poche, et super, je peux me géolocaliser partout juste pour pas me perdre.
Finalement, l'intelligence artificielle est là pour nous simplifier la vie. Elle peut écrire notre CV à notre place, ou notre disserte de français. On peut être soigné, même en désert médical, grâce aux cabines. On peut traverser un poste frontière au pas de course si on a les bons papiers. On peut avoir une recette de pâte à crêpes générée à partir de plusieurs. Une chanson écrite spécialement pour les 80 ans de mamie à partir de ses goûts. Une traduction automatique d'un article qui vient de paraître. Des conseils sur tout ou n'importe quoi. Mais c'est tellement pratique. Alors on croit que l'IA nous facilite la vie. Et même si on a des doutes, bah on l'essaye juste pour voir, parce que c'est un phénomène de société, ça serait quand même con de passer à côté.
L'intelligence artificielle transforme l'éducation, mais va-t-elle remplacer les salles de classe et mettre l'école en danger? Loin de là. L'IA améliore l'enseignement en offrant un apprentissage personnalisé, adapté aux besoins de chaque élève. Les enseignants utilisent l'IA pour identifier les difficultés des élèves et leur fournir des ressources spécifiques. Cela ne remplace pas les enseignants, mais les aide à se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'accompagnement et le soutien des élèves. L'IA automatise les tâches administratives, libérant du temps pour des interactions humaines essentielles. Elle permet aussi de créer des contenus éducatifs interactifs et engageants, rendant l'apprentissage plus attractif. L'IA ne remplace pas l'école, elle l'enrichit. L'éducation évolue pour intégrer des technologies avancées, préparant les élèves aux défis de demain. L'avenir de l'école est prometteur, avec l'IA comme allié.
Mais alors, blablabla, quoi. Mais pour réellement croire que l'intelligence artificielle nous facilite la vie, eh ben, il faut d'abord occulter tous les aspects délétères de cette intelligence artificielle. Et en fait, c'est ça, finalement, la magie de l'IA. Le fait qu'on oublie l'extractivisme et les impacts matériels du monde numérique. Ce sont des sujets qu'on a abordés dans les derniers épisodes. L'extraction des matières premières, l'accaparement et la pollution de l'eau, la déforestation, le fait qu'on oublie l'exploitation des travailleurs et des travailleuses très précaires du numérique, le fait qu'on oublie le contrôle et la surveillance permises et facilitées par les algorithmes. Donc, non. En fait, l'intelligence artificielle ne nous facilite pas la vie. En tout cas, pas la vie de tout le monde. Elle est utilisée par une très petite minorité à qui elle facilite la vie et qui ne voit pas l'immense majorité du monde qui en paye les conséquences.
L'Agence internationale de l'énergie estime qu'une interaction avec une IA comme ChatGPT pourrait consommer 10 fois plus de courant qu'une recherche Google classique. Dit autrement, si toutes les recherches Google, 9 milliards par jour, passaient par ChatGPT, la consommation électrique mondiale augmenterait de 10 à 30 térawattheures annuellement, soit la consommation annuelle de l'Irlande.
Alors l'intelligence artificielle, c'est devenu un phénomène social, et aussi un sujet médiatique et un effet marketing. En quelques années, de plus en plus de choses sont étiquetées « intelligence artificielle ». Tout et n'importe quoi peut devenir une IA. Mais ce terme recouvre des formes et des réalités très différentes, comme on l'a vu juste avant. Cette omniprésence participe à l'acceptation à travers des formes de résignation. L'IA est déjà partout. C'est comme ça, il faut l'accepter. Il n'y a pas de choix. Et restons à la page. Et puis encore une fois, on abandonne la distance critique et on accepte. Et puis, même si on est récalcitrant ou récalcitrante au départ face à l'IA, on va finir par s'en servir parce que finalement ça existe et puis ça gagne du temps. Et puis c'est là, alors autant en profiter. Et puis, on s'habitue petit à petit à tout un tas de choses qui semblaient inimaginables avant. On accepte d'avoir des groupes de travail sur WhatsApp, ce qui fait qu'on reçoit des notifications ou des sollicitations même en dehors de nos horaires. On met notre système de navigation GPS à chaque fois qu'on monte dans une voiture, même si on connaît déjà le trajet. Et puis, on a une appli pour allumer les lumières de l'appartement parce qu'on aime bien changer d'éclairage. Un jour, on demande à Alexa de nous faire une présélection de musique ou de nous dire l'actualité. Et puis, on fait des booms au rythme des présélections algorithmiques de YouTube. Alors, l'IA devient un gage de qualité, un argument de vente coincé entre un imaginaire d'efficacité et une fascination technologique. Sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec le coup des smartphones et on vient d'entendre un morceau de Kraftwerk, The Robots.
Alors on a déjà vu que l'intelligence artificielle n'était pas artificielle. Eh bien, elle n'est pas non plus intelligente. Alors c'est quoi l'intelligence ? Alors ça va être dur de résumer des débats sur des siècles entre des philosophes et des scientifiques pour définir l'intelligence. Ce qu'on peut critiquer par rapport à ce monde capitaliste et par rapport à l'intelligence artificielle en particulier, c'est une approche vraiment rationnelle de l'intelligence. L'intelligence, ce serait le calcul, c'est-à-dire la capacité à apprendre, comprendre et à s'adapter à des situations grâce au calcul. On est là dans un cadre très cartésien, tout est calculable, tout est contrôlable, sauf qu'en fait, c'est pas vrai. On ne peut pas tout comprendre par le calcul. Et les calculs ne permettront jamais de comprendre la complexité du monde. Mais ça, alors c'est une idée vraiment insupportable, horrible pour les scientifiques qui aiment vraiment tout mettre en boîte. Alors un exemple qui fait tourner les scientifiques et les intelligences artificielles en rond, ce sont les émotions. Il semble que c'est à cet endroit, philosophiquement, qu'on sépare les animaux du reste du monde sur la capacité à vivre, à montrer, à comprendre, à partager des émotions. Or, un calcul, un algorithme, ne peut pas produire une émotion.
On peut apprendre à ChatGPT à répondre à des émotions de manière complètement calculée. Par exemple, on peut coder que si une personne dit qu'elle est triste, il faut poser telle question ou lui dire telle phrase rassurante. Alors rien n'est laissé au hasard. Mais ChatGPT ne ressent pas les émotions de ses interlocuteurs et interlocutrices. C'est une calculette. Et on ne demande pas à une calculette de nous comprendre. Elle peut mimer, singer ou exprimer des émotions, mais elle ne peut pas les vivre ni les ressentir. S'il y a, par exemple, elle dit « je suis triste », ce sont des mots. Ça ne veut pas dire qu'elle est triste. Ce n'est qu'une suite de mots codés par des informaticiens. ChatGPT a été programmé pour répondre à des phrases et à des sollicitations. Et en plus, c'est une intelligence artificielle qui est dite apprenante. C'est-à-dire que l'expérience des conversations permet d'améliorer les réponses, mais ça n'en reste pas moins un programme. Alors, une intelligence artificielle ne pourra pas être empathique et ça n'a aucun sens que nous soyons empathiques vis-à-vis d'une intelligence artificielle.
Et puis, l'empathie, justement, c'est un truc que les bourgeois et les capitalistes ne peuvent pas comprendre parce qu'eux-mêmes en manquent. Et c'est pour ça qu'ils sont persuadés qu'on peut tout calculer. Et également, c'est une majorité d'hommes cis qui sont affairés à s'amuser avec les robots. Donc, il n'est pas surprenant que leur idée de l'intelligence s'arrête de manière tout à fait patriarcale, aux calculs, aux statistiques, etc. Alors que les champs relationnels et émotionnels, qui sont par tradition accolés au féminin, sont exclus de cette définition de l'intelligence.
Alors le défi actuel autour des intelligences artificielles, c'est la reconnaissance des émotions à partir des expressions du visage.
Ouais, alors, les présupposés de départ, c'est qu'il y aurait un petit nombre d'émotions. Le reste, ce serait des déclinaisons. Et dans les présupposés, ce petit nombre d'émotions serait universel. Il s'exprimerait donc de la même manière partout dans le monde. Et encore, ces émotions seraient lisibles sur le visage, toujours de manière universelle. Alors ces présupposés sont hautement discutables, mais comme souvent avec les technologies ou avec la science en général, il n'y a pas besoin de justifier ces dires, il suffit de quelques études par des pseudo-scientifiques et le tour est joué.
Donc actuellement, tout un tas de logiciels sont vendus en disant qu'ils peuvent lire les émotions. Chacun des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, a son propre logiciel de reconnaissance d'émotions.
Ils sont utilisés bien sûr dans le cadre de la surveillance, de la sécurité ou du domaine militaire, lors de passages de frontières avec e-border control et son détecteur de mensonges, dans le cadre de la surveillance des magasins, des rues, avec des caméras qui détectent les personnes stressées ou aux comportements bizarres. Mais ils sont aussi utilisés pour le recrutement dans des entreprises, dans le marketing avec l'analyse des comportements des clients ou dans la santé, par exemple. Alors, en réalité, l'analyse des émotions, c'est un bide complet. Ces logiciels ne reconnaissent pas les émotions. Alors pourquoi ? Eh bien, comme on s'en doute, les émotions, elles sont complexes. Elles sont souvent mélangées. Leurs expressions varient selon les personnes, mais elles peuvent aussi varier culturellement. Et puis, toute émotion n'est pas lisible sur le visage. On s'en doutait un peu. Mais, comme les scientifiques ont toujours raison, et que le marché des émotions est très juteux, et ben pas besoin de s'attarder sur une méthode bancale. On a donc des présupposés très contestables et contestés, et puis les bases de données utilisées pour nourrir les programmes de reconnaissance d'émotions, c'est quoi ? Et ben ce sont des personnes qui ont simulé les émotions devant un appareil photo. On a donc des émotions fausses prises comme origine de la reconnaissance de nos émotions les plus cachées. Donc en fait, c'est pas vraiment gagné que ça marche, ces reconnaissances. Mais là encore, la science et le marché économique auront certainement le dernier mot. On imagine qu'une machine qui dira qu'on ment lors d'un interrogatoire aux frontières ne sera pas remise en question. Nous, en revanche, il y a quand même bien des raisons qu'on soit en train de mentir, finalement, quand on commence à creuser.
Alors, une intelligence artificielle, encore une fois, c'est un programme. Et ce programme, il est fabriqué par des personnes. Et ces personnes, elles vivent dans un pays, elles ont une culture, elles ont des habitudes. Alors, la programmation qu'ils et elles vont faire, c'est le reflet de ce qu'ils et elles sont en termes de personnes et des valeurs et des préjugés des sociétés dans lesquelles ils et elles évoluent. Un programme n'est donc pas neutre. On peut prendre l'exemple de l'intelligence artificielle d'Amazon qui a été utilisée pour présélectionner les CV des personnes qui postulaient dans la boîte. Elle s'appuyait, l'intelligence artificielle, sur une base de données de 10 ans de CV des anciens salariés et des salariés. Les recruteurs ont vite constaté que l'intelligence artificielle ne retenait aucun CV de femme. Eh ben ouais, comme la majorité des CV qui ont nourri l'intelligence artificielle, c'était des CV d'hommes, bah, le logiciel, il a logiquement suivi le même chemin. Et en fait, on lui a implicitement demandé de sélectionner des CV d'hommes.
Cet exemple, il montre à quel point le développement de programmes et le fonctionnement des IA n'est pas neutre. Tout ceci a lieu dans une société traversée par de multiples systèmes de domination. Il n'est donc pas surprenant que les intelligences artificielles reproduisent strictement les discriminations, puisque ces intelligences artificielles, elles n'ont pas de morale. Elles appliquent ce pourquoi elles ont été fabriquées.
Alors, on a trouvé une vidéo qui parle de ce sujet-là et elle est titrée « L'IA est raciste », entre parenthèses, mais vous aussi. Et le type explique comment l'IA répète le racisme de la société. Mais en conclusion, il trouve que c'est vachement compliqué de changer la société et de lutter contre le racisme parce que, entre guillemets, l'humain serait une machine bien difficile à programmer. Bon, alors l'humain n'est pas une machine, hein, mais bon. Mais que par contre, on pourrait reprogrammer les intelligences artificielles.
En fait, les IA pourraient même être nos meilleurs alliés pour lutter contre nos biais inconscients. Pour plus d'équité dans nos sociétés, l'utilisation des IA pourrait en fait être une priorité, à condition bien sûr de d'abord leur enseigner adéquatement des valeurs morales.
Alors, c'est une proposition bien naïve. Parce que juste au lendemain de l'arrivée de Trump au pouvoir, on a bien vu qu'une des premières mesures des milliardaires qui développent les intelligences artificielles, ça a été justement d'abandonner les mesures antidiscriminatoires dans le recrutement. En fait, imaginer que l'IA pourrait servir pour lutter contre les discriminations, c'est oublier que l'IA est un programme informatique à l'intérieur de toute une organisation sociale discriminatoire. On ne peut pas séparer des entreprises capitalistes qui ont créé l'IA et on ne peut pas les séparer de l'IA en soi. Parce que ces entreprises capitalistes, elles ont tout intérêt à perpétuer le racisme et le patriarcat. Elles ont tout intérêt à inférioriser une partie du monde pour pouvoir surexploiter certaines personnes, certaines catégories de la société, pour augmenter leur marge. Alors on ne peut pas non plus séparer l'IA de ses fondements industrielle, ni oublier qu'elle fournit des outils monstrueusement formidables au contrôle social et à la surveillance.
À partir du milieu du 19e siècle, le calcul algorithmique fut le résultat du désir de gérer et de contrôler la guerre, la population ou le changement climatique.
Page 53 du Contre-Atlas des intelligences artificielles. En fait, les algorithmes peuvent servir à faire des statistiques et des prévisions. Et ils s'insèrent donc directement dans des logiques gestionnaires et de contrôle. Et pour faire fonctionner les IA, il faut amasser des quantités énormes de données et elle est donc inévitablement liée à des logiques de contrôle et de surveillance.
Alors la question de la surveillance et du contrôle, bah, c'est un très très vaste sujet et on l'abordera dans une émission qui sera complètement consacrée à ça.
Yeah.
vient d'écouter AC/DC, Who Made Who, et on est sur Campus Grenoble 90.8 dans l'émission Le Coup des Smartphones.
Alors, ce qu'on appelle des intelligences artificielles, ce sont en fait des gros logiciels qui tournent sur des ordinateurs avec de très grosses puissances de calcul et des data centers immenses pour stocker des énormes quantités de données. Et derrière les logiciels, il y a tout un tas de travailleurs et travailleuses. D'une part, il y a des concepteurs et des développeurs. Mais pour faire fonctionner ces logiciels un peu complexes en ligne, il y a des milliers de personnes qui travaillent de manière ultra précaire pour tester les logiciels, calibrer les bots et corriger les bases de données.
Alors attends, avant de continuer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'une base de données ?
Une base de données, c'est tout un tas d'informations qui sont organisées entre elles. Alors par exemple, dans une bibliothèque, les livres ils peuvent être répertoriés et leurs informations classées dans une base de données, selon par exemple les types d'informations. On va avoir avec un livre son titre, le nom de l'auteur, des mots-clés, les maisons d'édition, la date d'acquisition. Et donc toutes ces informations, elles sont stockées sur des serveurs dans une base de données. Et ensuite, quand il y a une base de données, il y a des logiciels ou des algorithmes qui se réfèrent ensuite à ces bases de données pour fabriquer des statistiques ou des probabilités pour fabriquer des modèles.
Alors, pour que tout ça fonctionne un minimum, les bases de données doivent être vérifiées ou complétées. Les logiciels sont testés, les bots sont entraînés et ça représente des milliers de tâches qui ne peuvent pas être automatisées.
Alors, en 2006, Amazon a créé une plateforme qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, qui permet à des gens de faire ces tâches en étant extrêmement mal rémunérés. Alors, les tâches, c'est par exemple enregistrer des phrases en français pour entraîner des assistants conversationnels. Ça prend une minute et ça rapporte 20 centimes d'euros. Catégoriser des produits, DVD, électroménager, etc. sur un site d'e-commerce, ça prend quelques secondes et ça peut rapporter aussi peu que 3 centimes. Rechercher des informations sur des individus, profil Twitter, profil LinkedIn, adresse mail, 45 secondes pour 15 centimes. Alors, on va maintenant écouter un extrait d'Antonio Casilli, qui est sociologue spécialisé entre autres sur les questions du travail et du numérique. Et c'est un extrait d'une émission de France TV qui s'appelle Invisible, dans le quatrième épisode, quand les travailleurs du clic refusent l'exploitation.
Le plus grand tour de passe-passe de ces plateformes, à mon avis, c'est d'une part de faire croire aux consommateurs ou en général aux usagers qu'il y a des processus automatiques, qu'il y a des algorithmes partout, alors que très souvent, c'est vraiment des tâches qui sont réalisées à la main. Et de l'autre, de faire croire aux travailleurs que d'abord, ce qu'ils réalisent n'est pas un vrai travail. Ils l'appellent un job, un gig en anglais. Donc voilà, quelque chose qui est transitoire, éphémère, et qui, à terme, va disparaître. Ça, à mon sens, c'est vraiment le plus grand tour de passe-passe, le fait d'annoncer, prophétiser la disparition du travail humain, alors que ce travail humain est partout. Et pourquoi ils annoncent constamment le bouleversement de nos catégories héritées de la civilisation salariale? Et bien parce que, tout simplement, grâce à ça, ils évitent de rémunérer le travail à sa juste valeur, et ensuite de le protéger au sens de protection sociale.
Alors on parle de micro-travail ou de travail du clic ou de digital labor. Ces emplois se démultiplient avec le développement des IA, des intelligences artificielles, qu'il faut former et entraîner pour qu'elles puissent ensuite fonctionner. Le micro-travail est marqué à la fois par le patriarcat, avec de nombreuses femmes qui travaillent pour compléter des emplois précaires ou à temps partiel ou entre deux travaux domestiques, mais il contribue aussi à des logiques néocoloniales. Comme l'explique aussi Antonio Casilli, les plateformes n'ont pas besoin d'être délocalisées pour profiter d'un coût de travail très bas dans cette logique de travail à la tâche. Les entreprises attirent des personnes partout dans le monde qui sont suffisamment précaires pour accepter des salaires de misère sans contrat de travail pour accomplir des tâches répétitives.
Et ainsi, il y a des milliers de travailleurs et de travailleuses du CLIC qui travaillent depuis Madagascar, le Kenya, l'Inde, les Philippines pour peaufiner les algorithmes, les bases de données et les logiciels.
Mais ces travailleuses sont aussi des sans-papiers ou des personnes issues de l'immigration qui résident dans les pays riches et qui sont précarisées. Il est notable que la première plateforme développée par Amazon s'appelle justement Amazon Mechanical Turk. Le nom fait référence à un canular du XVIIIe siècle. En fait, c'était un pantin mécanique soi-disant abattable aux échecs qui était en réalité actionné par un être humain qui était dissimulé dans la machine. Et c'est évidemment pas un occidental qui a été représenté en pantin, mais bien un imaginaire très exotisant d'un supposé turc. Alors finalement, si le nom de la plateforme est une référence historique raciste, son fonctionnement même est raciste puisqu'elle accorde les tâches les mieux rémunérées aux turkers américains bien notés. En fait, l'exploitation néolibérale se développe à tous les niveaux de la production des logiciels et des dites intelligences artificielles. En début de chaîne, il y a des travailleurs et travailleuses freelance, qui sont des développeurs, des graphistes, etc., qui ont des conditions de travail qui sont très très variables selon les pays. En fait, freelance, ça veut quasiment rien dire tellement c'est différent en fonction des endroits. Ensuite, les logiciels y sont entraînés par des micro-travailleuses avec des tests, des enregistrements de voix, la recherche web, la modération de contenu, la numérisation de documents, etc. Et tout en bout de chaîne, on trouve le travail uberisé avec les livraisons ou la prise de photos dans les magasins. Dans tous ces types de travail, les personnes ne bénéficient pas ou peu de protection sociale et de droits. Et comme on l'avait développé dans notre dernière émission, on voit encore ici que derrière la dématérialisation, il y a donc des réalités bien matérielles. En fait, il y a l'exploitation de centaines de milliers de personnes, un peu de confort et de loisirs pour quelques milliers d'utilisateurs et d'utilisatrices, et de très très gros profits pour une toute petite minorité.
Et on va maintenant entendre un extrait du documentaire de Nathan Castet qui s'appelle « En attendant les robots », qui est un titre inspiré de l'ouvrage de Antonio Casilli qu'on a écouté tout à l'heure et qui parle du travail du clic. Et dans cet extrait, une personne employée par Amazon Mechanical Turk est en train de trier des images en leur attribuant à voix haute le tag « human » ou « not human » en fonction de ce qu'il voit sur l'image.
Human.
Next.
Not human tree.
Next, please.
Not human house.
Next, please.
Human.
Next, please. Please repeat the word.
Not human garbage.
Please repeat the word.
Not human trash.
Please repeat the word.
Not human trash!
Please repeat
the word. Not human trash! Not human trash.
Please repeat.
Not human trash.
Please repeat the word.
Not human trash.
Please.
Not human house. Not human car. Not human garbage. Not human black garbage. Not human. Not human garbage. Is not human door.
Please repeat the word.
Not human trash. 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 Not human trash.
Please repeat.
Fuck you. Human.
Next, please.
Human.
Next, please.
Human.
Next, please.
Human.
Alors un autre exemple sur l'exploitation des travailleurs et des travailleuses, c'est le scandale récent de Roblox aux États-Unis. Roblox, au départ, c'est une méthode ludique pour apprendre aux enfants la création de jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'est une plateforme de jeux en ligne qui pèse 41 milliards de dollars et qui s'est développée grâce au travail des enfants. La moitié des utilisateurs et utilisatrices de Roblox ont moins de 13 ans. Et sur ce site, en fait, il est possible de fabriquer des personnages et des jeux vidéo et d'inviter d'autres utilisateurs et utilisatrices à y jouer. Roblox permet aux enfants de vendre des parties de leur jeu. Par exemple, une enfant qui fabrique un jeu de voiture de course pourra vendre des voitures à d'autres. En réalité, la plupart des enfants ne touchent pas ou peu d'argent et par contre, la société est milliardaire.
Et d'un autre côté, on nous fait croire que l'IA est presque humaine, avec l'empathie vis-à-vis de l'intelligence artificielle dans la littérature ou un vocabulaire du style L'intelligence artificielle pense, l'intelligence artificielle fait, elle crée, elle apprend. Alors qu'en fait, on tend à rendre les humains de plus en plus comme des robots ou des machines. Et ça rejoint l'idée qu'on a développée avant que l'intelligence, ça serait juste du calcul.
On peut prendre comme exemple l'intelligence artificielle journaliste. Alors cette intelligence artificielle, elle est déjà utilisée dans certaines rédactions. Elle propose des articles à partir de quelques mots-clés et c'est le projet Genesis de Google en 2023. Je cite « pour automatiser certaines tâches et libérer du temps aux rédacteurs ». Donc ça, c'est la firme qui dit ça. Et du coup, certaines journalistes se voient déjà disparaître au profit de l'intelligence artificielle, imaginant des rédactions entièrement constituées de robots. Bah, en réalité, on pense plutôt que ça va permettre une réduction des effectifs des journalistes additionnée à une plus grande pression sur celles et ceux qui restent pour produire plus d'articles. Bon, un plan de restructuration finalement.
Quand j'entre dans le vaste centre de distribution d'Amazon, à Robbinsville, New Jersey, la première chose que je remarque, c'est un grand panneau, Time Clock, pointeuse. Il dépasse de l'un des pylônes en béton jaune vif répartis à travers cet immense espace de 110 000 m². C'est un entrepôt de distribution majeur pour les petits objets, un nœud central pour le nord-est des États-Unis. Il offre un spectacle vertigineux de la logistique et de la standardisation moderne, conçu pour accélérer la livraison des colis. Des dizaines de panneaux Time Clock apparaissent à intervalles réguliers le long de l'allée principale. Chaque seconde de travail est surveillée et comptabilisée. Les employés, appelés associés, doivent badger dès leur arrivée. Les salles de pause, spartiates et éclairées au néon, sont aussi équipées de pointeuses, avec d'autres panneaux qui signalent que toute entrée ou sortie est dûment enregistrée. Tout comme les colis sont scannés dans l'entrepôt, les employés sont surveillés pour la plus grande efficacité possible. Ils n'ont droit qu'à 15 minutes de pause par poste de travail, avec une pause déjeuner de 30 minutes non payée. Les roulements s'effectuent toutes les 10 heures. C'est l'un des centres de traitement les plus récents, où des robots déplacent les lourdes étagères chargées de produits dans des plateaux. Les robots orange, vifs, qui va, glissent doucement sur le béton comme des punaises d'eau, suivant une logique programmée qui les fait tourner en cercle paresseux, puis verrouillent leur système vers le prochain employé qui attend les plateaux. Ils avancent avec une tour de marchandises sur leur dos qui peut peser jusqu'à 1 tonne 300. Cette armée de robots rasant le sol fait montre d'une efficacité sans effort. Ils portent, ils tournent. Ils avancent, ils répètent. Ils émettent un faible bourdonnement presque entièrement noyé sous le bruit assourdissant des tapis roulants qui sont comme les artères de l'entrepôt. 20 km de convoyeurs tournent ainsi, sans interruption. C'est un rugissement constant. Tandis que les robots exécutent leur balai algorithmique coordonné derrière des grilles, les employés sont beaucoup moins sereins. L'angoisse d'atteindre le taux de préparation de commandes, le nombre d'articles à sélectionner et emballer dans le temps imparti est clairement une épreuve. Beaucoup des employés que j'ai rencontrés lors de mes visites portent des bandages de soutien. Genouillères, straps au coude, orthèses au poignet. Quand je lui fais remarquer que beaucoup de gens semblent blessés, l'employé d'Amazon qui me guide dans l'entrepôt me montre les distributeurs placés à intervalles réguliers qui sont approvisionné en antalgique sans ordonnance pour tous ceux qui en ont besoin. Le contrôle du temps est un thème omniprésent dans l'empire logistique d'Amazon. Et le corps des employés est géré selon les cadences de la logique computationnelle. Amazon est le deuxième plus gros employeur privé en Amérique. Et de nombreuses entreprises s'efforcent d'imiter son approche. Beaucoup investissent massivement dans des systèmes automatisés pour tenter d'obtenir des volumes de travail toujours plus importants d'un nombre réduit de travailleurs. les entrepôts de distribution hybride d'Amazon, où se côtoient humains et robots, sont des sites clés pour comprendre les compromis à l'œuvre dans cet engagement pour l'efficacité automatisée. Nous pouvons ainsi envisager comment le travail, le capital et le temps sont imbriqués dans les systèmes d'IA. Au lieu de me demander si les robots remplaceront les humains, je m'intéresse à la façon dont les individus sont de plus en plus traités comme des robots et à ce que cela signifie pour le rôle de la main-d'œuvre. De nombreuses formes de travail se dissimulent derrière le terme « intelligence artificielle », à savoir que des personnes accomplissent souvent des tâches répétitives pour renforcer l'impression que les machines peuvent faire le travail.
Attendre des humains qu'ils se comportent comme des robots, c'est aussi refuser de prendre en compte la douleur, la maladie ou le vieillissement. Et c'est dans cette logique que Amazon a installé des distributeurs de médicaments antidouleurs dans ses entrepôts. On veut des travailleuses rentables, comme des robots qui ne tomberaient pas en panne, ou simplement qui ne s'arrêteraient pas de travailler même si ils ou elles ont mal quelque part.
L'intelligence artificielle va s'insérer un peu partout dans nos vies. Et c'est sur le contrôle et la maîtrise de nos corps que le capitalisme va venir créer et étendre un marché juteux. La question de la bonne santé et du bonheur va être accolée à la question de l'employabilité. Nous devenons employables à condition de prendre soin de nous, d'être en bonne santé et heureux. Pour ce faire, nous pouvons télécharger tout un tas d'applications qui nous permettent d'attester de notre santé, le nombre de pas que nous faisons par jour, notre rythme cardiaque, nos calories ingurgitées, nos heures de sommeil, notre cycle hormonal, etc. Certaines entreprises demandent même à leurs employés d'accéder à ces données pour leur proposer des stages de bien-être ou de nutritionnisme. Alors si le capitalisme s'intéresse d'aussi près à la santé et au bonheur des travailleurs et des travailleuses, c'est parce que des analyses voudraient que un travailleur, une travailleuse heureuse et plus productive.
Prenons pour exemple l'application Appify. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Appify est aujourd'hui l'une des applications pour smartphone les plus populaires sur un marché virtuel du bonheur, sans cesse plus important et plus lucratif. Comme d'innombrables autres applications vendues sous les rubriques « santé et forme physique », bien-être, self-help, développement personnel ou simplement bonheur, Appify propose à son utilisateur de l'aider à réguler en temps réel son état émotionnel en lui expliquant, exemple à l'appui, comment travailler sur ses émotions et ses pensées positives, comment atteindre des objectifs plus ambitieux dans différentes sphères de son existence, en résumé, comment augmenter son niveau de bonheur. Cette application propose à son utilisateur différentes démarches à suivre, parmi lesquelles surmonter les pensées négatives, mieux composer avec le stress, mieux vivre sa situation de parent à la vie professionnelle chargée, se motiver pour réussir, trouver sa vocation ou encore construire un mariage plus solide. Certaines d'entre elles y sont présentées comme fondamentales. Surmonter les pensées négatives, dont il est dit qu'elle a été homologuée scientifiquement, a été conçue par Derek Carpenter, coach spécialisé en psychologie positive. Carpenter, y lit-on, coach tout le monde, des dirigeants des plus grandes entreprises du CAC 40 aux officiers de l'armée américaine et leurs épouses restées à la maison, les initiant tous à la psychologie positive et à la résilience émotionnelle. Lorsqu'une démarche a été entièrement menée à bien, il est proposé à l'utilisateur de passer à la suivante. S'il répond correctement à chacun des tests, des points de bonheur lui sont attribués à titre de récompense. Ses progrès émotionnels sont supervisés et vérifiés par l'application elle-même, qui lui fournit un bilan quotidien de sa santé émotionnelle. L'application peut, s'il le souhaite, lui fournir également une information physiologique tout au long de sa traversée de ses états émotionnels. C'est qu'il est aujourd'hui possible de capter son rythme cardiaque et d'analyser son sommeil, entre autres au moyen de montres intelligentes ou d'applications capteurs, désormais inclus dans de nombreux smartphones. Qui plus est, l'application recommande à son utilisateur de partager ses données émotionnelles et physiologiques enregistrées en temps réel avec les autres utilisateurs et amis, membres de la communauté, par ailleurs invités à échanger des tuyaux et autres conseils. On s'y lancera même des défis afin de déterminer qui est le plus heureux. À côté de toutes les offres destinées à ses utilisateurs réguliers, Appify propose également à tous ceux qui l'utilisent pour la première fois des kits spécialisés. La famille et les enfants, amour et vie intime, le travail et l'argent. L'un des plus remarquables est intitulé « Des solutions pour mieux travailler ». Il s'agit ici de former les salariés aux émotions positives afin de les rendre plus productifs, plus concentrés et plus impliqués dans la vie de leur entreprise. Si ces applications séduisent tant, c'est notamment parce qu'elles se vantent de fournir des solutions efficaces et validées scientifiquement pour une meilleure santé émotionnelle et un plus grand bien-être. Better emotional health is just a few taps away.
Happify is your personal happiness trainer. Alors, comme on l'a dit dans l'émission, l'intelligence artificielle nous fascine tellement que ça nous empêche d'en être critique. Et c'est bien dommage. Parce qu'en plus de consommer énormément de ressources et d'exploiter des gens, l'intelligence artificielle sert surtout à nous surveiller. Elle contrôle et analyse nos comportements, que ce soit dans l'algorithme de YouTube, dans les caméras de supermarché ou dans les 500 caméras qui ont fonctionné pendant les Jeux Olympiques à titre d'expérimentation et qu'on verra apparaître dans toutes les villes.
La statistique et les algorithmes fabriquent des vérités clairement racistes, permettant un contrôle plus accru des populations déjà stigmatisées. Par exemple, les noms de famille à consonance non française sont plus surveillés dans les algorithmes de la CAF. Alors, cela entraîne aussi des conséquences en termes d'autocontrôle sur nos comportements. Bon, comme nous, on refuse ce monde normalisé et ses fonctionnements racistes, capitalistes et patriarcaux, on combat aussi l'IA qui l'accompagne et qui le renforce.
Et ben, on a fini avec cette émission.
Et on vous propose de vous mettre un peu toutes les références qu'il y a dans l'émission sur la page du podcast sur campusgrenoble.org.
Salut.
Salut, bonne soirée.
Sandwich Minute, bonjour. Choisissez votre sandwich. Sandwich au jambon, veuillez confirmer. Merci. Veuillez à présent sélectionner votre pain. Pour du pain normal, tapez 1. Pour du pain sans gluten, tapez 2. Pour du pain complet protéiné, tapez 3. Pain normal. Veuillez confirmer. Merci. Veuillez à présent sélectionner votre beurre. Pour du beurre normal, tapez 1. Pour du beurre allégé extra fin, tapez 2. Pour du beurre anti-cholestérol, tapez 3. Beurre normal. Veuillez confirmer. Merci. Veuillez à présent sélectionner votre jambon. Pour du jambon blanc, tapez 1. Pour du jambon bio sans coane, tapez 2. Pour du jambon cuit à l'étouffée, tapez 3. Pour du jambon cuit sans lactosérum, tapez 4. Pour du jambon... jambon blanc. Veuillez confirmer. Merci. Vous souhaitez des cornichons? Tapez 1. Vous ne souhaitez pas de cornichons? Tapez... sans cornichons. Vous êtes sûr? C'est bon pourtant les cornichons. Moi, j'aime les cornichons. Dans mon sandwich, je mets toujours des cornichons. C'est dommage de pas prendre... Bravo. Très bon choix. Merci. Récapitulatif de votre commande. Vous avez commandé un cornichon. Votre commande est en préparation. Veuillez patienter. Désolé. Une erreur s'est produite. Retour au menu principal. Pour du pain normal, tapez 1. Pour du pain sans gluten, tapez aïe. Pour du pain de sel, oui. Pour du pain aromatisé, aïe. Sandwich minute.
Arte. Radio. Point.
Vous souhaitez des cornichons?
Comme.